Bonjour et merci Bernard Lubat d'avoir quitté l'estaminet du Zest pour venir jusqu'à nous le temps d'une émission. L'artiste polymorphe, le créateur d'imprévus, le combattant que vous représentez, m'ont incité à mener cet entretien sur des noms, sur des mots et des expressions que j'ai listées et auxquelles vous allez répondre. Alors évidemment, ces mots, ces expressions, tout ça a été choisi dans votre univers. Ces mots-là font partie de votre univers, de votre quotidien et a certainement contribué à l'histoire de Lubat, cette histoire qui est en perpétuel mouvement. On y va ?
Allons-y.
On va respecter plus ou moins la chronologie. Hein. Je vais essayer. On va commencer par Alban et Marie.
Vos parents.
Liés à... Alors, on va faire d'une pierre trois coups, j'ai envie de dire. Alban et Marie, qui sont liés à l'estaminet et qui sont bien sûr liés à Uzeste, l'Uzeste de votre enfance.
Ben oui, j'ai rien inventé. C'est le DIP. Voilà le parcours. Je suis parti, je suis revenu et... Et quelque part, différemment, je prends la suite un petit peu de mes parents, de ce qu'ils ont fait à Uzeste. Depuis cette maison Café l'Estaminet, fondée en 1937. L'Estaminet, c'est le nom des cafés dans le Nord.
Oui.
Je pense que pendant la guerre, pendant l'occupation, il y avait des réfugiés belges. Et donc, il a entendu le mot l'Estaminet. Alors, il a fait, lui, le café l'Estaminet, il a rajouté ce café l'Estaminet, et c'est devenu dans cette région qui était encore agricole à l'époque le premier dancing en milieu rural, on peut dire quoi, ce qui déjà à l'époque secouait pas mal, puisque dans un milieu cultivateur de métayers, de gros propriétaires terriens. La religion catholique était forte et l'église était pleine, et donc installer un dancing à 50 mètres de l'église à l'époque,
ça faisait des ordres. Ouais.
Donc je n'ai rien inventé.
Mm-hmm. Alors votre père était musicien ?
Oui, il était cafetier et musicien, ça se faisait d'ailleurs pas mal autrefois. Et puis il faisait de la musique, oui, il jouait dans les bals. Et il a organisé plein de balles chez lui, ce qui fait que le Café l'Estaminet était devenu rapidement un dancing.
Et votre mère, alors, pure gasconne ?
Ma mère a tenu la baraque pendant 50 ans. Ma mère est toujours vivante, elle a 91 ans.
Ouais.
Elle assiste un petit peu à tout ce qui se passe avec bienveillance et curiosité, elle est marrante. Elle a travaillé toute sa vie dans ce café. C'est sa vie. Quoi.
C'est sa vie.
Avec le jardin, avec les cochons. Enfin, tout ce qui a disparu, évidemment, parce qu'il n'y a plus les cochons, il n'y a plus le jardin. Le café, maintenant, est un café associatif. Enfin, c'est plus du tout la même façon de vivre familialement ce que cela fut.
Ouais. Cet Uzeste de votre enfance, Bernard Lubat, quels sont vos souvenirs ?
Le meilleur souvenir que j'ai de mon enfance, c'est l'ennui. Cet espace sans temps de l'ennui. J'ai une mélancolie formidable de l'ennui de ces après-midi d'été ou d'hiver où il me semblait que j'allais m'ennuyer, mais que c'était vraiment un précipice, un gouffre. Eh bien, j'ai la mélancolie de cette époque, de ce temps de l'ennui.
De ce temps de l'ennui.
Oui, de ce temps possible dans ma vie d'enfant où j'avais la possibilité de m'ennuyer. Voilà, quelque part, petit essai de liberté.
Mais cet ennui était provoqué par quoi ?
Peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à faire au village à l'époque, pourtant il était assez vivant encore. Mais ouais, cet ennui. Aujourd'hui, on ne s'ennuie plus. Il n'est plus question de s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer. On remplit les cases. On consomme le temps comme des bêtes. On ne s'ennuie plus. Il n'y a plus de ces intervalles comme ça d'incertitude, de rêve. De pensées perdues comme ça, de liberté. C'est ce que j'appelle l'ennui.
L'ennui pour vous est assimilé à liberté.
Oui. Oui. À réflexion, à penser, à voir intérieurement, à n'être pas obligé par l'extérieur de conclure.
Ouais.
C'est comme ça que j'interprète maintenant ces crises d'ennui, et je les interprète sans doute comme ça parce que j'en manque maintenant de cet ennui.
Alors ces crises d'ennui que vous avez connues pendant votre enfance, Bernard Lubat, elles ont finalement été constructives puisqu'elles vous ont amené forcément à la musique, peut-être alors là par l'intermédiaire de votre père aussi.
Oui, l'intermédiaire de son désir, c'est toujours le désir du
père. Le désir du père.
Quand les noms du père... Oui, peut-être cet ennui, et puis par la musique que j'ai découvert au village, j'ai fui le village aussi, parce que par la musique que j'ai découvert dans le village, depuis le village, j'ai petit à petit découvert l'histoire de la musique, et par là l'histoire tout court.
D'accord.
Donc je suis évidemment monté au Conservatoire de Bordeaux et après au Conservatoire de Paris pour continuer ma découverte de la vie et de l'histoire.
C'est ça. Alors là, vous vivez le Paris des années 60.
Ouais.
Et puis ce sont des noms comme Kenny Clarke, comme Eddie Lewis.
Miles Davis, Pierre Michelot, Martial Solal, enfin toute l'histoire du jazz qui se tramait entre beaucoup de musiciens noirs américains qui vivaient sur place, qui avaient été pas mal chassés de chez eux et qui trouvaient à Paris une écoute. Et donc ça a créé une synergie avec tous les musiciens français, dont il y a eu une époque éclairée depuis les années 50, quoi.
Cette histoire du jazz, elle s'est faite à ce moment-là?
Oui, cette histoire de le jazz, l'histoire du jazz se continuait à Paris, quoi, à cette époque, se continuait dans les boîtes du quartier latin.
De quelle façon, justement, racontez-nous un peu cette période, justement, de cette histoire du jazz du Paris des années 60. De quelle façon se comportaient les musiciens? Est-ce qu'il y avait une représentation? Est-ce que c'était l'overdose de musique? Est-ce qu'on passait son temps à ça? On pouvait jouer pendant des mois entiers?
Oui, c'est
et
ça,
puis,
oui.
C'était ça, oui.
C'était pas du tout des plans de carrière. Il y avait très peu de grands concerts. Il y avait encore pas de festival de jazz. Le jazz était une musique de cave, quoi. C'est pas par hasard.
Ouais.
C'était avant l'industrie de la musique ou de l'industrie du cinéma ou du divertissement.
Mm-hmm.
J'ai jamais entendu parler à cette époque de carrière. On vivait nos journées pour jouer. On jouait pour vivre nos journées. Et donc, c'était que des discussions sur des conflits esthétiques, les bagarres entre le jazz bebop, donc le jazz free, les cassures entre les styles, entre les générations, les entremêlements de genres, d'époques, de générations. Moi, je suis tombé en plein là-dedans, enfin, à la fin de cette époque. Puisque
ouais.
Le début de Saint-Germain, c'est d'abord les poètes, c'est d'abord Sartre, c'est d'abord les intellectuels.
Oui.
Et la musique est sans doute pas par hasard, est venu s'installer dans ce quartier latin qui était truffé d'étudiants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Est-ce que la musique, à cette époque-là, représentait une sorte de survie?
C'était une époque où l'avoir ne comptait pas, c'était l'être. L'être musicien. Voilà. L'avoir, conséquence de l'être, c'était pas le sujet, puisque la musique, c'est impossible à faire. C'est infini, c'est inatteignable, donc c'est le désir. Après, plus tard, dans les années plus tard, après c'est devenu des carrières, c'est devenu des configurations.
Bon, alors c'est devenu de la représentation.
Voilà,
après, plus tard,
oui,
ce qui n'existait pas à l'époque.
Oui, la société du spectacle. Aujourd'hui, on pourrait dire la satiété du spectacle, quoi. C'est-à-dire une overdose de propositions. C'est pour ça qu'on n'a plus le temps de s'ennuyer.
Ouais. Alors Bernard Lubat, ces musiciens des années 60 qui ont fait cette histoire du jazz, est-ce que c'était des artistes à part entière? Parce que entre ces artistes-là et les artistes aujourd'hui, alors.
Ben, on a envie de dire ça, quoi. Sans jouer les anciens combattants, c'était des artistes authentiques, puisqu'il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de finalité. Il n'y avait que le désir de jouer. D'abord, le jazz, c'est une musique qui ne s'apprend pas, c'est une musique qui se joue. Elle n'apparaît pas comme ça par miracle. L'art de l'improvisation, c'est l'art des années de vie.
Ouais.
Ça ne s'invente pas, ça se pratique. Voilà. Aujourd'hui, la musique, c'est autre chose. Ce sont des marchandises, ce sont des produits, des finalités, des objets. Ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que la musique improvisée a encore du mal à passer à la radio. Et par contre, il y a de plus en plus de manifestations qui s'intéressent et qui proposent de la musique improvisée. Et pas que du jazz, mais la suite de ce qu'on pourrait appeler le jazz, qu'on peut appeler aujourd'hui maintenant la musique contemporaine, improvisée, pas par opposition, mais par différentiel,
oui,
avec la musique contemporaine savante écrite, par exemple, quoi. Voilà, de nouvelles formes d'esthétique musicale apparaissent de plus en plus partout. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais bon.
Bernard Lubat, Paris a contribué à votre éducation musicale.
Oui, puis politique et puis humaine aussi.
Éducation
oui,
humaine.
Oui, bien sûr, puisque c'était une grande ville où il y avait plein de musées, plein de librairies, plein de livres à lire, hein, plein de musique à écouter. Ça, évidemment, ça me changeait un petit peu du zeste dans les années 50-60, qui était les villages, jusqu'à la guerre, les villages ont eu une certaine énergie, puisque les gens y vivaient, ils y survivaient, mais ils étaient fiers de ce qu'ils cultivaient. Ils travaillaient la terre, ils travaillaient les bois, ils vivaient dans la nature, ils vivaient dans une société, dans des villages, avec plein de cafés, des engueulades, enfin une vie, quoi, avec des histoires. Petit à petit, ces villages se sont vidés de leur vie active, et pour maintenant, ça va vers des villages ghettos, des villages fleuris, des villages musées, des villages dortoirs. C'est plus du tout la même. On ne cultive plus la terre sur laquelle on marche, quoi. Maintenant, on va au supermarché. Pour marcher, on va au supermarché.
Donc, éducation, si j'ai bien compris, pour vous, égale improvisation.
Oui, parce que improvisation, c'est-à-dire le jazz a réinventé l'oralité.
Oui.
On improvisait beaucoup à l'époque de Chopin, à l'époque de Jean-Sébastien Bach. Je pense que tous les grands musiciens dans l'histoire ont improvisé. Mais évidemment, on ne peut pas le savoir puisque ça ne pouvait se transmettre que par l'écrit. À partir du moment où il est advenu l'enregistrement, là, d'un seul coup, l'oralité reprenait une fonction transmissible. Donc l'improvisation, c'est le retour du discours oralisé, c'est-à-dire qui est à côté de l'écrit, qui n'est pas contre l'écrit, mais pendant longtemps, pour des raisons X, Y qu'on peut analyser, mais l'écrit a été la seule façon de transmettre petit à petit l'improvisation, et ça ce sont les musiciens noirs américains qui nous l'ont rappelé. C'est assez étrange de revoir les analogies d'ailleurs entre l'apparition du jazz et la musique savante contemporaine, c'est-à-dire Varese, le début du XXe siècle. Et donc il y a des analogies très étranges, on peut les écouter, entre Luciano Berio par exemple, qui est un compositeur de musique écrite savante, mais qui malgré tout inclut dans sa musique écrite de l'improvisation et de l'aléatoire, et de ce que les musiciens venus de l'esclavage ont porté quoi dans leur chair, dans leur corps. C'est un peu la réapparition du corps comme partition à lire.
Voilà, c'est... Bernard Lubat, juste avant d'écouter Luciano Berio, je veux en venir à l'improvisation. Pour vous, elle ne s'adapte pas essentiellement à la musique, cette improvisation, mais aussi à la vie. Vous improvisez votre vie, mais improviser sa vie, c'est prendre des risques quand même.
Oui, c'est avoir une vie discursive. Je reviens à l'ennui, c'est d'un seul coup arrêter sa voiture sur le bord du bas-côté parce qu'on a vu une marguerite, quoi.
Ouais.
C'est ça l'improvisation. Ou parce que d'un seul coup, on entend une émission à la radio et qu'on s'arrête pour prendre des notes. Ou qu'on est attiré par quelque chose qui vous arrive et qu'on se laisse faire par ce quelque chose qui vous arrive. Alors c'est évidemment, ça peut paraître comme dangereux, mais je crois que d'obéir à tout ce qu'il faut faire comme on croit qu'il faut faire, c'est peut-être aussi dangereux. Donc le discursif... C'est aussi le libre arbitre. Moi, j'improvise ma vie, mais parce que je ne pense pas, en tous les cas, je ne crois pas à une vérité révélée.
Vous avez des limites ou pas dans cette improvisation?
Il n'y a pas de limite à l'improvisation. C'est le cerveau qui est limité, quoi. Il n'y a pas de limite à la recherche scientifique. Il n'y a aucune limite. La seule limite qui est visible, c'est la crétinerie, quoi.
On écoute donc Luciano Berio, donc qui chante italien.
Ça c'est Labyrinthus, c'est une œuvre qui a été composée en 1970. C'est un extrait, ça nous montre ce qui pouvait déjà se créer, se réfléchir comme esthétique nouvelle déjà à l'époque. Yeah. C'est le Beethoven du XXe siècle. Alors c'est on n'est pas habitué aux formes d'expression contemporaine, ce qui prouve que vraiment qu'on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe sous nos pieds, quoi. On est au courant de ce qui se passe à la télé. Mais...
Bernard Lubat est pratiquant, mais pas croyant.
Oui, je suis pas croyant, je suis pratiquant. Quoi. Je ne crois pas.
Qu'est-ce que vous pratiquez ?
Je pratique l'être. C'est-à-dire... Donc je ne crois pas au Père Noël ni au petit Père des peuples. Je pratique l'être, c'est-à-dire la vie, ma vie. À partir de là, je pense. Mais croire, pour moi, c'est quelque chose qui...
Et ça veut dire que vous ne croyez en rien ?
Non, mais c'est un...
Même
c'est...
pas en la musique ?
C'est pas ça, je pense en la musique. Je ne crois pas en la musique. Le verbe croire ne fait pas partie de ma philosophie du vivant, quoi. Je sais pas ce que ça veut dire, croire. Penser, je sais ce que ça veut dire. Réfléchir, je sais ce que ça veut dire. Mais croire, je ne sais pas.
Parce que croire, ça va peut-être trop loin aussi.
Moi, je préfère la certitude du doute. Je préfère le doute parce que le doute, c'est pas sûr. Donc, il y a de l'espoir. Croire, ça laisse toujours sous-entendre qu'il y aurait une vérité révélée à révéler, ou je sais pas. On ne croit pas au cosmos. On le pense, on le travaille, on l'observe, on le mathématise. Pour nous, les artistes, on le formalise avec des formes subjectives. Donc la problématique de la croyance, pour moi,
mais
complètement...
Mais le fait de croire chez vous, est-ce que c'est pas ça reflète pas une sorte de peur ?
Croire, pour moi, c'est pas être dans le coup. Je pense dont je suis. Croire, c'est pas moi, je sais pas qui c'est, je sais pas. Cette immanence ne m'interpelle pas.
C'est pas vous. Et alors, le piano ? Bernard Lubat.
Alors le piano, c'est un instrument magique. C'est plein de doigts, c'est plein de notes partout. On peut même y gratter dedans. C'est un instrument magnifique, ancestral, et qui m'a fait vraiment ramer. Et c'est pas fini. J'adore travailler le piano parce que je n'y arrive pas.
Qu'est-ce qui fait que vous y arriviez pas ?
Parce que techniquement, c'est impossible. Jouer du piano et jouer de la musique avec un piano. Il suffit de s'y mettre pour comprendre que c'est impossible. Donc cet impossible m'intéresse. Donc le piano représente pour moi cet impossible, cette impossible cible, cet indicible. Donc c'est la porte ouverte à tous les rêves, à toutes les possibilités, à toutes les potentialités.
Je transmets vos propos, vous dites que le piano c'est aussi le tambour, c'est aussi le rythme, et je l'entends comme ça, surtout dans la solitude.
Oui, 10 doigts, 10 baguettes. Mais c'est un tambour, le piano, c'est un tambour savant, avec, on a mis dessus toute la gamme occidentale tempérée, avec ses tons et ses demi-tons, notre gamme sublime. Il n'y a pas que celle-là d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on prépare les pianos avec, on y met dedans des accidents pour justement transformer le son d'une manière mécanique ou électronique, et cette histoire du piano est magnifique parce que c'est un instrument manuel. On est très occupé avec un piano, on a 10 doigts qui marchent ensemble.
Il y a une sorte d'empathie entre le piano et...
Complètement, et puis avec l'histoire de la musique aussi, puisqu'on a devant soi toute la gamme des possibles, toute l'histoire de la culture musicale depuis que la musique s'est organisée, quoi.
Ouais. Le piano traîne ses fantômes aussi lorsque vous jouez.
Voilà. Ah oui, voilà, là Jean-Sébastien Bach, le premier, il est assis à côté de moi quand je joue, il est toujours là lui. Mozart, Debussy, Ravel. Non, oui, c'est
un certain Bud Powell aussi.
Oui, évidemment toute l'histoire du jazz, Bill Evans et des tas d'autres. Aujourd'hui, il y a des jeunes pianistes qui jouent formidablement bien du piano. Après, c'est la question de la musique. La musique, c'est pas que le piano. On peut faire jouer du piano sans jouer de la musique. Quoi. Alors après, se greffe le problème de la musique.
C'est-à-dire, expliquez ça.
Le problème de la musique, quoi. D'inventer de la musique, de créer de la musique, d'aller chercher jusqu'où ça commence, la musique. Ma question, moi, c'est jusqu'où ça commence, la musique. Alors, je suis dans une époque, en effet, où la réponse, c'est jusqu'où ça s'arrête.
Quand vous commencez un concert, par exemple, vous le commencez ou vous ne le commencez pas ?
Je ne sais pas, justement. J'ai d'ailleurs pour ça... créer un spectacle que j'ai appelé « Vive la musique », L'apostrophe à musique, parce que je ne sais pas commencer. Je sais que je ne sais pas commencer. Commencer. Commencement, c'est... Ah oui, commençons. Commençons comme mensonge. Donc, ne sachant pas, Et ça, je le sais, j'essaye de commencer en me demandant si c'est pas déjà commencé. Mmh. C'est ça le rapport aussi à l'autre, à l'autre dans l'histoire, à l'autre, aux fantômes qui sont toujours là.
On va écouter Lubat au piano, puisque ce piano, c'est quand même, cet instrument paraît magique par rapport à vous. Enfin, il y a quelque chose de très très fort entre vous et cet instrument. Donc, c'est l'album s'appelle Piano Lubat Solo. Vous pouvez nous en dire deux mots. On va écouter.
Ça s'appelle Le Conversatoire. Ouais. Le disque.
Alors, c'est conversatoire entre le pianiste et son piano ou
Oui, entre lui et l'autre, entre oui, c'est une conversation. Je préférais la conversation à la conservation.
On écoute un petit extrait de ce piano Lubat Solo. Quand on entend cet extrait, Bernard Lubat, on a l'impression que cette musique que vous interprétez sur votre piano, il y a des mots qui sortent. Et on en vient un peu à la musique des mots.
J'ai essayé de m'expliquer là-dessus dans la pochette de ce disque, dans un carnet de roots. Je disais que dans cette pianistique canaillerie, je joue ce que je ne sais pas que je suis. Ça me joue, j'écoute ce qui s'ensuit, s'enfuit. J'intériorise, oui. J'en jouis, j'en crie. La musique s'échappe, m'échappe, j'en chope, j'en troque, j'en traque, j'en trinque, je m'y perds, je suis perdu. La musique ne convainc pas, elle vainc. La gueuse me voue à sa guise, c'est ma maîtresse, elle fait de moi tout ce que je ne veux pas, tout ce que je sais pas, tout ce que je ne sais pas, etc., etc. Mm-hmm.
Est-ce que c'est une façon, cette musique ou cette musique des mots, de sortir d'un carcan de soi?
Oui, c'est sortir de soi, c'est-à-dire le jeu est un autre, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi, et de découvrir qu'on est plusieurs sur le coup.
Oui.
Voilà, et donc il y a des tas de possibilités qui résident dans chacun de nous, qui sont des singularités à travers des altérités, et qui nous font symboliser à chacun. Chacun doit et peut être capable de symboliser la et sa condition humaine, mmh, à travers une démarche personnelle, et non plus communautariste. Ou de style, ou de ceci, de voilà.
Il n'y a pas de genre musical comme il n'y a pas de genre...
Il y a surtout autre. Des genres commerciaux, quoi. Sitôt qu'arrive un genre, c'est un rapport avec le commerce. Bon, c'est pratique, ça fait, c'est des étagères pour nommer ceci et cela. Mm-hmm. Et puis si on creuse un peu, on découvre que la musique continue son développement et d'une façon non linéaire, qu'il y a des avancées, des reculades, qu'il y a des avant-gardes, qu'il y a des arrière-gardes, que tout ça, c'est un chaos enfantin. Mm-hmm.
On va quitter la musique quelques instants pour parler de politique ou poélytique.
Oui, je pensais le mot poélytique pour essayer de réunir poétique, esthétique, musique, politique, ludique, éthique. Voilà pour parce que il n'y a pas. Enfin, je ne sais pas comment faire pour être un artiste qui ne soit pas citoyen. Je suis citoyen et donc je suis un être politique comme n'importe quel citoyen. Donc.
Mais vous êtes un artiste engagé ?
Je suis un artiste engagé dans l'art et évidemment engagé dans l'art, ça dérange l'ordre conservateur établi puisque l'art, c'est une nouvelle façon, une proposition nouvelle toujours d'entendre, de voir, de comprendre, de réfléchir. Donc forcément c'est politique.
Vous avez hérité du communisme de votre père ?
Pas vraiment, non, parce qu'il n'était pas communiste au sens encarté, il était plutôt communaliste. Mmh. Il était communiste à titre individuel, ça je l'ai gardé.
Ouais. Vous n'avez jamais milité,
si,
fait partie de certains mouvements
Ah non, je n'ai jamais fait partie de comparti.
Vous n'avez jamais eu de carte dans un parti politique, quel qu'il soit.
Non, je pense que la musique que je joue ne serait pas invitable à aucun congrès d'aucun parti politique. Mmh. Pour ça, il faut des musiques d'ambiance, il faut des musiques d'héroïsme, il faut des musiques un petit peu claironnantes, et moi, c'est pas mon sujet.
Il faut un genre, mais comme vous n'êtes pas dans le genre...
Voilà, non, je suis mauvais genre, pour dire.
Mauvais genre, voilà. La compagnie Lubat, Bernard Lubat, oui. 1978.
Oui. Ben oui, les débuts du Zeste, musical, 1978, égale compagnie Lubat de Gascogne. Puisqu'il fallait, évidemment, pour que ces manifestivités existent depuis maintenant, dont 27 ans, des chevilles ouvrières qui étaient des artistes et la formation d'artistes et la continuité de ma formation à moi, parce qu'on est en formation permanente, ouais, d'artistes et de citoyens. Mais donc, j'ai senti le désir de... dans le milieu rural, de la plus petite structure citoyenne, c'est-à-dire le plus petit village du monde, de dire à partir de là que l'art contemporain, c'est pour tout le monde.
Oui. Vous avez cherché à recréer à Uzest, en montant cette compagnie, ce que vous aviez trouvé un peu dans ce Paris des années 60 dont on parlait tout à l'heure, cet état d'esprit ?
On peut dire ça, c'est un petit peu ça, oui. C'est un peu ce qui se passe dans le village quand on organise plusieurs jours de concerts, de débats, de colloques, de rencontres, de projections, de discussions sur l'art, de rassemblements d'artistes, de sensibilités diverses et différentes, d'esthétiques plurielles. Oui, c'est un peu ça, oui, c'est un peu. Mais bon, dans d'une autre époque où c'est la grosse différence, c'est que là c'est le rapport direct et souvent contrasté, contradictoire entre nature et culture.
Oui. Et ça a pas dû être une mince affaire de monter une telle manifestation. Bon, ça dure depuis 27 ans. On sait que ça, il y a eu des problèmes. Bon, mais Uzest continue toujours. Uzest musical existe et vit toujours, bien évidemment. Mais les gens du village, ça a pas dû être simple de bouger tout ça, de leur.
Ou c'est remarquable, c'est que ça continue à ne pas être simple, parce qu'il s'agit pas de devenir simple. Mm-hmm. La simplification aujourd'hui, c'est une plaie, et donc ça n'invite pas à la réflexion, à l'intelligence, ouais, quoi. Voilà. Donc on continue à être pénible, complexe, critiquable, critique, problématique. C'est ça le champ du sensible. Ouais. Le champ du sensible, c'est pas le bétonnage, quoi. Mmh. C'est pas la vérité. Comme dit Nietzsche, on a inventé l'art pour nous sauver de la vérité. Donc, les problèmes continuent. Un artiste ne pose pas des bombes, il pose des problèmes. Je pense que dans ce sens, on est utile à la société. C'est pour ça qu'il nous faut prendre nos intervalles dans la société, quelle qu'elle soit, même si je dis bien qu'il faut les prendre parce qu'on n'a pas non plus à nous les laisser. Nous ne sommes pas forcément des artistes invités. C'est nous qui devons nous commettre en tant qu'artistes. Je ne veux pas demander au public ce que je vais jouer, quoi.
Ouais.
Il y a des... Aujourd'hui, la pensée un petit peu contemporaine qui est en branle, qui m'inquiète un peu, qui entre parenthèses aussi le mot d'ordre de Jean-Marie Le Pen, c'est il faut aider la création artistique à condition qu'elle soit du goût du public. Voilà. Alors là, on entre dans des régions de démagogie participative qui pour moi sentent le danger.
Le danger. Ouais. Alors, la compagnie Lubat, on va écouter, tiens, un petit morceau de Jazz Panic. Et puis en même temps, ça va nous, bien sûr, nous amener à parler du zeste, parce que je voudrais quand même que l'on parle du zeste à travers les artistes, du zeste à travers les enfants, et du zeste, eh bien, qui est devenu un village d'art, on peut dire, village des arts.
Oui, des arts à l'œuvre.
Des arts à l'œuvre, voilà.
Jazz panic, swing maniac, ça m'abrit tout et je descends de ma bouddhoc, si d'animal, pas d'acte, perdu sous des pins, silencieux, j'ai pas le gavis qui pue des basses, exil swing par les misères, j'arrive par cœur, jazz panic, swing maniac, ça m'abrit tout et je descends de mon padac, c'est une ration paddock, transit innocent, je craque le blue note, je me tire une balle, musette, plein cœur dans le mireille, dit-il, qu'elle est petite élève.
Eh bien entendu, c'est sûr de dire, mais ça se soigne, si tu pouvais plutôt chanter l'amour, toujours, toujours l'amour, de l'air pâturage, collé du midi en pur, de vin plus redondant, on pourrait mieux, puis je n'en perds de ta rengaine, et si t'arrêtes de monter et de descendre son côté, t'es 50 bas côté. Argus, on pourrait tirer connaître d'accord, est un con, mais tu pourrais enfin mettre de l'eau dans ton swing. Si tu veux pour moi, chaque nous blâme est responsable. Bleu, rouge, rouge, clair, innocent, swing, jazz, money, swing, manac, pépé, kiké,
pépé, boum, boum, boum. Boum, 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 boum.
Voilà, sur cette compagnie Lubat, ce jazz panique. Alors, Uzest, c'est d'abord les artistes qui ont contribué à faire d'Uzest ce qui est devenu l'Uzest musical d'aujourd'hui.
Ouais, ben oui, c'est...
Tous ceux que vous avez fait venir.
Michel Portal, Eddy Louis, André Benedetto.
Vous dites, je voulais, j'ai retenu une phrase, je voulais provoquer les uns et les autres et continuer par là à tenter de devenir artiste.
Ben oui, puisque c'est pas que le souci de la représentation, être artiste, c'est souvent la représentation du souci. Devenir artiste, artiste c'est devenir artiste. On n'est pas artiste.
Oui.
On devient artiste.
On le devient
et ça n'a pas de fin. Puis je voulais faire un événement, un rassemblement politique d'artistes conséquents et d'individus surtout, pas forcément de groupes ou de représentations de communautés ou de styles, mais des gens, des individus. Alors donc ça a permis de faire des rencontres courtoises mais fermes entre la littérature, la musique, la danse, les arts plastiques, la philosophie, la science, l'éducation. Tout,
une façon, je ne sais pas si vous allez aimer ce que je vais dire, mais c'est une façon en fait de vivre en bonne intelligence.
Ben oui, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer...
Avec des gens très différents.
Oui. Avoir moins le souci de paraître...
C'est ça.
Que d'être.
Que d'être.
Voilà. Et c'est un peu ce qu'a réussi Uzest à ouvrir un intervalle où il ne s'agit plus de paraître, mais de confiance et de confrontation entre des gens... Qui réfléchissent, et puis des gens, je veux dire, conséquents, parce qu'il n'y a pas de bassesse.
Ouais.
On se confronte à travers le médium de l'art. Là, tous les coups sont permis. Là, on n'est pas moins artiste à cause de l'autre qui est davantage artiste.
D'accord. Uzest et les enfants.
Voilà, très important. quand les enfants me disent après le spectacle, moi aussi, quand je serai grand, je serai un enfant.
C'est joli.
On s'est tout de suite occupé des enfants parce que l'artiste, c'est l'enfant, quoi. C'est l'enfance qui continue et il ne faut pas confondre l'enfantillage avec l'infantilisme. Hein. Mais l'enfance, c'est, oui, puis c'est la transmission, c'est jouer avec les enfants, c'est jouer en tant que toujours enfant.
Vous avez monté une école, hein,
voilà,
musicale.
On a monté le conversatoire du Zest qui entraîne les gens, les enfants, à jouer d'abord et d'apprendre ensuite. Et non pas l'inverse, comme dans d'autres endroits, on vous explique souvent que tant que tu ne sauras pas jouer, mon petit, tu ne joueras pas. Voilà. Un peu ça, la logique de l'enseignement traditionnel. Donc, ça bouge, c'est en train de se transformer. Mais nous, on dit, il faut jouer d'abord. Et à partir du moment où on joue, on se rend compte de ce qu'on découvre du plaisir et du problème d'apprendre. Le problème devenant un plaisir. Le problème devenant un obstacle comme lieu de passage dans lequel on se transforme, par lequel on se transforme.
Ces enfants sont sur le chemin de l'improvisation aussi.
Tout de suite.
Tout de suite.
Après, et à partir de là, c'est très intéressant parce qu'il met le solfège, il va l'apprendre à lire. Mais c'est à partir de l'improvisation qu'ils découvrent qu'il faut qu'ils apprennent. Alors là, le monde de l'apprentissage, de la mémorisation, de la technique, de l'instrument, du problème de l'instrument, voilà. Et là, ça devient plus intéressant, c'est-à-dire ça va vers l'autonomie, quoi.
Ouais. Donc Uzest, c'est un concept, c'est des concepts aussi. C'est la musique et puis celle qui est sur scène, et celle qui est ailleurs, c'est l'art avec un grand A. Je voudrais que, on parlerait des heures avec vous, Bernard Lubat, malheureusement, on n'a pas le temps, mais je voudrais quand même que l'on évoque deux noms qui sont très importants. C'est Bernard Manciette.
Eh bien oui, Bernard Manciette.
Qui a été une rencontre choc. Hein.
Oui, complètement, oui. C'est le poète en langue d'oc gasconne. C'est un poète tellement immense que il nous entraîne justement dans l'insavoir, quoi. Il nous entraîne dans le c'est possible, l'impossible est possible. Il faut tendre vers cette aspiration. C'est quelqu'un d'une espérance inouïe, quoi. Dans ses poèmes, il vous aspire à devenir, à être. Il est très pénible pour ça, d'ailleurs, parce que il ne vous fait aucun cadeau. Sa poésie ne fait pas de commerce, quoi. C'est la confrontation avec les images, quoi, avec la pensée. Alors là, c'est énorme. Et puis pour un musicien, ça vous entraîne dans des profondeurs inconnues.
Mmh. Et puis, Claude Nougaro, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques temps. Vous allez rendre beaucoup d'hommages, hein, là j'ai vu, dans les mois à venir.
Oui, on va faire une tournée dans toute la France et aussi en Europe avec Eddie Louis, Maurice Vander et Luigi Troussardi, qui est contrebassiste, qui sont des historiques. Nougaro, il est né dans les années 60. Il est né de sa confrontation avec des musiciens de jazz qui n'en voulaient pas à l'époque. Il traînait dans les boîtes. Qui c'est ce petit mec avec ses bouts de papier et ses poèmes? Et ce type-là, dans la confrontation avec des jazzmen, qui étaient des rudes sauvages et des professionnels de la nuit blanche, dans cette confrontation, Nougaro est devenu le poète du jazz en France.
Ouais.
Et ça fait quelques-unes de ses plus belles chansons.
Ouais. On va terminer avec lui, vous voulez bien, Bernard Lubat, avec Bleu Blanc Blues, c'est vous qui l'avez choisi.
Sur l'hymne national de ma peau, j'ai hissé les couleurs de mon drapeau. Bleu Blanc Blues, Bleu Blanc Blues, en espérant qu'il flotte si haut. Que le ciel me dise chapeau, vive ton bleu, blanc, blues, vive ton bleu, blanc, blues. Un jour qui sait tard ou bientôt, mon drapeau fera chanter bel canto. Les bleus, les blancs, les blues, en attendant ce jour zéro, où chacun devienne héros, plein de bleu. Blanc blues, plein de bleu, blanc blues. Je hisse les couleurs de mon drapeau sur l'hymne national de ma peau. Bleu, blanc blues, le blanc blues.
Le poids des mots, hein, c'est.
Ah oui.
Et le poids de cet artiste.
C'est
extraordinaire.
Un poète en chantant.
Extraordinaire. L'hommage que vous lui rendez le prochain, si les dates sont bonnes, que j'ai sous les yeux, c'est le 27 octobre prochain à Troyes. Oui. Vous rendez hommage à Nougaro, donc avec Eddie Louis.
Et on passe par là, je crois qu'on va venir.
Et vous passez par là
à Bordeaux, je ne sais pas quand. Je ne sais plus, il y a je peux...
C'est pas marqué sur mon petit papier, ouais, bah, mais j'espère que c'est prévu.
L'année prochaine.
En tout cas, Bernard Lubat, merci mille fois de nous avoir rendu visite. Et puis, on se donne rendez-vous l'année prochaine à Uzest.
Avec plaisir.
Hein ?
D'accord.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Merci également à Didier Fouché qui a assuré la réalisation de cet entretien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.